À 1 heure de route au nord de New York, une bande d'hommes armés violents prend d'assaut une petite ville paisible. Ils attaquent sauvagement et rapidement. Les agents apprendront que le chef du gang vit dans la clandestinité depuis plus de 20 ans. L'escouade antiterroriste du bureau du FBI à New York espère retrouver le fugitif avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Rockland County, dans l'état de New York, en 1981. Cette banlieue prospère, située à seulement 30 km au nord de la ville de New York, est devenue le sanctuaire d'anciens résidents de la métropole. La plupart d'entre eux ont quitté leur maison en ville pour aller vivre dans un endroit sécuritaire où y élever leurs enfants. Ils y ont trouvé davantage d'espace et un taux de criminalité nettement plus bas. Comme à Nanuet, par exemple, avec son nouveau centre commercial qui attire beaucoup de monde. Le 20 octobre 1981, à 15h10, un fourgon blindé de la Brinks s'arrêta comme d'habitude pour collecter les recettes d'un détaillant. Un gardien resta assis dans le blindé pendant qu'un autre surveillait les portes. Un troisième employé revint avec l'argent liquide et les bordereaux de paiement. À 15h15, une bande d'hommes armés surgit d'une mini-fourgonnette rouge foncée. Un des gardiens reçut un projectile à la gorge, un autre au bras. Les voleurs tirèrent ensuite sur le conducteur. Il riposta, mais le feu de ses assaillants était trop puissant. L'un des employés réussit à réintégrer le fourgon par l'arrière pour se mettre à l'abri. Le chef de police Alan Colsey du service de police de Nyack était à 8 km de la scène quand on l'appela. D'autres policiers des villes voisines furent également alertés puisque Nanuet était trop petite pour disposer de son propre corps de police.
C'était en octobre 1981. Une affaire comme celle-ci a causé tout un choc aux populations de Rockland, de Nyack et de Clarkstown. C'était une chose à laquelle on ne s'attendait pas du tout.
La police de Clarkstown et les ambulanciers arrivèrent les premiers. On mit les employés sous assistance respiratoire en espérant qu'ils tiendraient le coup jusqu'à leur arrivée à l'hôpital. Peter Page, l'un des trois hommes, n'aurait pas cette chance. Une de ses artères était sérieusement endommagée suite à un coup de feu à l'épaule droite et au cou. Il mourut en route. Le conducteur, qui n'avait pas été touché, déclara que même si les assaillants portaient tous des masques, ils croyaient qu'ils étaient de race noire. Ils s'étaient enfuis à bord de leur mini-fourgonnette rouge. En examinant les relevés de dépôt, les policiers constatèrent que la somme de 1,6 million de dollars avait été volée. Le fourgon en comptait encore 1,3 million. Le chef Colsey recevait toutes les informations sur l'affaire pendant qu'il filait vers la scène du crime.
La première information qu'on m'a transmise, c'était que les suspects avaient pris la fuite à bord d'une mini-fourgonnette rouge. Ils roulaient sur la route 59 en direction est. Cela devait les conduire à la voie d'accès de l'autoroute de l'État de New York qui mène directement à la métropole par le pont Tappan Zee.
Quelques instants plus tard, une résidente près du centre commercial signala avoir aperçu des hommes armés et masqués dans un stationnement en train de transférer sacs et armes dans un petit camion de déménagement. La femme ajouta ensuite que les véhicules avaient pris la direction de l'est. Le détective Arthur Keenan et deux autres patrouilleurs roulaient sur la route 59 près de l'entrée de l'autoroute quand ils reçurent les dernières informations.
Nous avons continué à rouler sur la route 59 près de l'autoroute de l'État et regardé autour pour voir si on ne pouvait pas apercevoir le véhicule des voleurs. Nous étions persuadés qu'ils viendraient bientôt.
Quand les patrouilleurs arrivèrent à l'intersection de la rue Mountain View et de l'autoroute 87, ils remarquèrent un camion de déménagement qui attendait de tourner à gauche pour entrer sur l'autoroute. Keenan ordonna immédiatement à l'une des unités de patrouille d'en bloquer l'accès. C'est alors que le détective Keenan reçut un appel à propos d'un autre camion de déménagement.
Au même moment, nous avons appris par radio de la police de Ranchtown qu'un camion U-Haul roulait en direction sud sur la route 304 près de la frontière du New Jersey, c'est-à-dire à peu près à la même distance que nous du centre commercial de Nanuet.
Même s'il ne savait pas si le camion sur la route 59 était bien celui des suspects, l'agent Edward O'Grady et le détective Keenan lui bloquèrent le passage. Les agents Brian Lennon et Waverly Chip Brown s'approchèrent du conducteur.
On nous avait décrit les suspects comme étant de race noire. À l'intersection, nous avons remarqué que le conducteur et sa passagère avaient la peau blanche.
White individuals.
La femme s'objecta à ce qu'un policier armé d'un fusil de chasse s'approche d'eux. L'agent O'Grady demanda à Lennon de rapporter l'arme à la voiture de patrouille. Il croyait avoir arrêté le mauvais camion. Pendant que Lennon mettait l'arme en lieu sûr, le détective inspecta l'arrière du camion. Bien qu'il ne semblât pas verrouillé, la portière arrière refusait de s'ouvrir. Il demanda au couple de lui montrer ce qui se trouvait à l'intérieur.
Je ne comprenais pas pourquoi la porte ne s'ouvrait pas. Je voulais savoir ce qu'il y avait dans cette partie du camion. Tout à coup, j'ai entendu du bruit à l'intérieur. Je me suis retourné et j'ai vu les suspects sortir de l'arrière du camion en tirant des coups de feu.
Les projectiles des revolvers des policiers se heurtaient aux gilets pare-balles des voleurs armés. Le sergent Lennon courut vers sa voiture pour y prendre son fusil. L'agent Brown fut touché au cou et à l'épaule et s'affaissa. Les gilets pare-balles des policiers n'étaient d'aucune utilité.
Nous étions désavantagés. Et en plus, ils utilisaient des munitions de M16 qui traversent aisément les gilets pare-balles.
Les hommes masqués s'approchèrent et l'un d'eux abattit l'agent Brown à bout portant. Après avoir été touché à la jambe, le détective Keenan courut se mettre à l'abri.
Je me suis mis à l'abri, mais on a continué à me tirer dessus. Une balle a frappé l'arbre derrière lequel je me protégeais à la hauteur de ma poitrine.
Le sergent Lennon avait retiré le cran de sûreté du fusil de chasse, mais on lui tirait dessus sans relâche. Les hommes armés foncèrent ensuite sur la voiture de police pour la déplacer et pouvoir prendre la fuite, mais sans succès. Deux autres voitures arrivèrent alors sur les lieux. Les suspects saisirent les sacs d'argent et les mirent dans les autos. Mais l'une des suspectes ne parvint jamais à atteindre la voiture. Un automobiliste s'était arrêté et avait agrippé la femme qui avait occupé le siège du passager dans le camion. Elle n'avait pas pu s'enfuir. Il vit la Oldsmobile blanche et la Honda brun clair quitter les lieux en vitesse. Les agents Keenan et Lennon s'empressèrent de porter secours à leurs collègues blessés.
Quand les suspects ont pris la fuite, je me suis approché de Waverly Brown et d'Eddie O'Grady pour voir si je pouvais faire quelque chose pour eux. Malheureusement, mes compétences médicales n'étaient pas suffisantes.
Toujours en route, le chef Alan Colsey estima qu'il y avait déjà assez d'effectifs sur la scène du crime et qu'il serait peut-être plus utile en tentant de retrouver les fugitifs.
Je ne voulais pas interférer avec le personnel d'urgence qui se trouvait déjà sur place. De plus, l'accès en était complètement bloqué. Sachant que la route empruntée par les fugitifs les menait dans une seule direction, j'ai fait demi-tour à l'intersection de Mountain View et de la 59 et je suis revenu sur mon chemin.
Les suspects allaient fort probablement se diriger vers New York, où ils pourraient plus facilement se fondre dans le paysage. Éventuellement, ils croiseraient l'intersection de Mountain View.
Ils auraient alors le choix d'aller vers l'est ou vers l'ouest. Au moins, je surveillais l'une de ces possibilités. Je me suis donc placé à cette intersection le plus vite possible. De fait, en m'y rendant, j'ai aperçu les deux véhicules des suspects rouler à haute vitesse vers l'est sur Christian Herald.
Le chef prit les voitures en filature. Il communiqua sa position par radio et demanda des renforts.
En me fiant à ce qui s'était passé jusque-là, il m'est apparu évident que ces individus étaient extrêmement dangereux et qu'ils n'avaient aucun respect pour la vie humaine. Ils n'hésiteraient pas à recourir à la violence extrême si quelqu'un entravait leur route.
En attendant l'arrivée des autres policiers, il incombait à Colsey d'arrêter les deux voitures. Après les avoir suivis pendant quelques minutes, il remarqua que deux des passagers de la Honda avaient soudainement disparu de leur champ de vision. Peut-être étaient-ils en train de charger leurs armes.
En arrivant au coin de la 6e rue et de Broadway, la Oldsmobile a tourné à droite en direction sud, soit vers le centre-ville, et la Honda brun clair a tenté de faire de même, mais elle a fait une embardée pour aboutir de l'autre côté de la route.
Le chef se mit à l'abri derrière sa voiture. Il saisit son arme et continua à appeler des renforts en espérant que son message serait entendu malgré les nombreuses autres communications.
J'ai ordonné aux suspects de sortir de leur voiture à maintes reprises. Pendant quelques secondes, il ne s'est rien produit. Puis, les portières se sont ouvertes et j'ai aperçu une femme mettre les pieds sur la chaussée tout en restant assise.
Le chef ordonna à nouveau aux occupants de sortir du véhicule, les mains en l'air. La femme chercha à leur apprendre quelque chose en arrière. Peut-être s'agissait-il d'une arme. Un autre passager, qui portait un gilet pare-balles, se mit alors à marcher en direction du policier.
Malgré mes ordres de ne pas bouger, l'un des suspects s'est mis à marcher dans ma direction. La femme essayait de saisir quelque chose et j'ai immédiatement pensé qu'elle cherchait son arme.
Le chef de police ne faisait pas le poids et les suspects n'obéissaient pas à ses ordres. Il fit un dernier appel désespéré pour obtenir de l'aide.
Driver, driver.
Le 20 octobre 1981, dans l'État de New York, le chef de police de Nyack avait arrêté l'une des deux voitures des voleurs d'un fourgon blindé qui avait tué trois personnes et en avait blessé deux autres. Pendant qu'il tentait d'obtenir des renforts, il vit l'une des suspectes tenter de saisir quelque chose derrière son siège. Un autre suspect marchait vers lui, vêtu d'un gilet pare-balles. Le policier était seul et les suspects ne lui obéissaient pas. Alors qu'il faisait un dernier appel désespéré, il vit enfin les renforts arriver. Les policiers prirent rapidement le contrôle des lieux et capturèrent un troisième suspect assis à l'arrière du véhicule. Il avait sans doute joué le rôle de gardien armé pour les deux autres lors du vol. Mais maintenant, il était blessé et il avait laissé tomber son arme lorsque l'auto avait fait une embardée. On fouilla le véhicule. Dans le coffre se trouvaient des sacs contenant environ $1 million. Sous le siège avant, les policiers trouvèrent un pistolet de 9 mm chargé. C'était sans doute l'arme que la femme avait tenté de prendre. Les funérailles des policiers abattus le 20 octobre attirèrent des milliers de personnes. La population entière partageait avec le détective Arthur Keenan la tristesse d'avoir perdu ses collègues.
La mort de mes deux amis, Chipper Brown et Eddie O'Grady, a changé ma vie. Quand on vit dans une aussi petite ville et qu'on travaille dans un poste de police aussi modeste, on est invité au mariage de nos collègues, au baptême de leurs enfants. On organise des barbecues et des réunions de ce genre, comme s'il s'agissait d'une seule et même famille. La perte de ces deux amis a donc été très difficile pour moi.
to lose two of your good friends.
Les quatre présumés meurtriers, dont la femme capturée lors du barrage routier, restèrent silencieux pendant la lecture de leur acte d'accusation au palais de justice de New York. Les policiers ignoraient combien d'autres voleurs étaient toujours en liberté.
Toute cette série d'événements graves avait grandement pris le service de police de la région par surprise. Le fourgon blindé avait été volé par une vraie troupe d'assaut. Les policiers d'ici n'avaient jamais vu une telle force de frappe ni un tel niveau d'organisation chez les criminels.
Si les policiers de New York n'avaient guère l'habitude d'un tel degré de violence, ce n'était pas le cas du FBI et du service de police de New York. L'escouade spéciale antiterrorisme qu'ils avaient formée enquêtait déjà sur une série de vols de fourgons blindés un peu partout en région et exécutés de la même façon. Aujourd'hui retraité, l'agent spécial Lou Vici était alors membre de l'escouade. Il avait la conviction que le vol de Nayak était relié aux autres vols.
Les individus qui avaient organisé le coup de Nayak devaient être impliqués dans ces autres crimes car leur modus operandi était absolument identique. Les Blancs étaient au volant des véhicules, les Noirs exécutaient les vols. Les armes étaient les mêmes que celles utilisées lors des autres coups. Dans mon esprit, il n'y avait pas l'ombre d'un doute que certains des participants avaient joué un rôle dans les autres vols.
Les suspects capturés furent mis en détention à la prison de Rockland County. Lorsqu'on leur demanda de s'identifier, ils donnèrent tous des faux noms, à l'exception d'une personne. Judy Clark, arrêtée dans la voiture qui avait servi à la fuite, n'était pas une inconnue pour les agents du FBI. Elle faisait partie du Weather Underground, qu'on pourrait traduire par météo clandestine, un groupe extrémiste impliqué dans de nombreux vols et explosions dans les années 60 et 70. Pour le vol du fourgon de la Brinks, elle serait condamnée à 75 ans d'emprisonnement. L'agent spécial Lou Vici était devenu un expert de ce groupe d'extrémistes.
J'ai immédiatement reconnu Judy Clark parce que nous avions déjà enquêté sur elle pour des actes de terrorisme. Il y avait aussi une autre femme dans le groupe qui me paraissait familière.
L'agent Vici croyait que l'autre femme arrêtée lors du barrage routier était Kathy Boudin, un autre membre du groupe extrémiste. Une vérification de ses empreintes digitales confirma son identité. Boudin plaida coupable et fut condamnée à 20 ans d'incarcération pour complicité. Elle avait leurré les policiers en étant passagère dans le camion de déménagement. Les policiers découvrirent que l'un des hommes était David Gilbert, le mari de Boudin, également membre du Weather Underground. Il fut, quant à lui, condamné à 75 ans de prison pour son rôle dans le crime. Sam Brown, qui avait été blessé dans la voiture brun clair, était un sympathisant de l'Armée de Libération des Noirs, un autre groupe de militants extrémistes. Tout comme Gilbert, Brown écopa de 75 ans d'emprisonnement. Quatre membres du gang étaient derrière les barreaux. Grâce au témoignage des survivants, les policiers estimèrent le nombre de membres encore en liberté à 7. L'agent spécial Ken Maxwell se joignit alors à l'enquête pour aider à déterminer l'identité des fugitifs et à trouver leurs repères. Une piste était prometteuse. L'autre voiture qui avait servi à leur fuite avait été trouvée quelques kilomètres plus loin.
Nous avons retrouvé l'Oldsmobile abandonné à Westchester County. À l'intérieur, il y avait beaucoup de sang, ce qui laissait croire que la personne qui l'avait laissé là avait été blessée lors de l'échange de coups de feu.
Les agents vérifièrent auprès des hôpitaux si l'on avait admis des victimes de coups de feu. Mais ils ne trouvèrent rien. L'Oldsmobile était enregistré au nom d'une femme qui vivait dans un appartement sur Prospect Street à East Orange, au New Jersey. Peut-être les fugitifs armés s'étaient-ils cachés là. Les agents obtinrent un mandat de perquisition. L'appartement était vide et les hommes commencèrent à le fouiller minutieusement.
L'appartement d'East Orange au New Jersey était un vrai coffre à trésors. C'était leur lieu sûr, leur repère. À l'intérieur, les policiers du New Jersey et le FBI ont trouvé une impressionnante quantité d'informations relatives à d'autres repères, de véhicules qu'ils utilisaient, ainsi que des photos et d'autres pièces d'identité. Cela nous a permis de commencer à découvrir qui était impliqué.
L'une des personnes clés était celle qui avait signé le bail de l'appartement. Elle s'appelait Marilyn Jean Buck. Elle était déjà connue des agents du FBI. C'était un membre actif de l'armée de libération des Noirs et la seule blanche du gang. Au cours de leurs recherches, les agents découvrirent également un manuel de fabrication de bombes et les plans de 6 postes de police, de même qu'une liste de chefs d'entreprise et de personnalités politiques à abattre. Ils trouvèrent aussi de fausses pièces d'identité, des déguisements, un fusil de chasse, 2 pistolets de calibre 9 mm et des munitions. Un livre comptable rempli de notes écrites de la main de Marilyn Buck faisait état des activités illégales du groupe. On y avait consigné les dates, les dépenses pour les voitures louées, les armes, les munitions et les drogues vendues par le groupe. Pendant que les enquêteurs examinaient tous ces indices, ils se heurtèrent à un problème qui allait les hanter tout au long de cette enquête complexe. Déterminer la véritable identité de ces individus. De plus, les agents ignoraient toujours où ils se cachaient et quelle était leur motivation. Pour obtenir des réponses, le FBI devrait trouver des informateurs. Les agents se tournèrent alors vers Sam Brown, à la prison d'Otisville, le tireur arrêté après la poursuite en voiture. C'était un associé éloigné de l'armée de libération des Noirs. Brown accepta de coopérer en échange d'une peine d'emprisonnement réduite. Le nom le plus précieux fourni par Brown était celui de l'homme qui avait orchestré le vol à main armée. Mutulu Shakur, un terroriste reconnu. Il était le leader du mouvement de libération des Noirs et l'un des membres les plus haut gradés d'un gang qui se faisait appeler la famille. Ce gang formé d'environ 12 terroristes consistait en fait d'un regroupement de membres du groupe Weather Underground et de l'armée de libération des Noirs. Brown déclara aux agents que la famille s'était rencontrée à plusieurs occasions pour planifier le vol de Nayak. Mutulu Shakur avait assigné une fonction à chacun des membres du groupe. Edward Joseph et Donald Wims étaient tireurs lors de l'assaut du fourgon blindé. Le FBI savait que Wims était à la fois membre des Black Panthers et de l'armée de libération des Noirs. Il s'était évadé de prison en 1978. On en savait moins au sujet de Joseph. C'est un autre homme du nom de Chewy Ferguson qui avait utilisé le fusil d'assaut M16. Samuel Lee Smith utilisait quant à lui un fusil de chasse. Brown ignorait le nom des autres participants, mais il donna aux agents leur description physique. Les agents firent circuler ces descriptions, accompagnées des noms, incluant celui de Samuel Lee Smith au sein de la police. Dans Queens, les détectives affectés aux homicides étaient en route vers la dernière adresse connue de Smith. Une plaque d'immatriculation enregistrée à son nom avait été trouvée dans un repère. Un des policiers roulait dans la rue de Smith lorsqu'il croisa un automobiliste qui correspondait au signalement du suspect. Le détective demanda à ce qu'on envoie une équipe d'arrestation sur les lieux. Mais dès que le suspect aperçut le gyrophare, il prit la fuite. Les policiers le suivirent dans une ruelle. Pour la troisième fois en seulement 3 jours, Un membre armé de la famille avait ouvert le feu sur des policiers en uniforme. Samuel Lee Smith, le fugitif recherché pour son rôle dans la mort de deux policiers par balle et celui du gardien d'un fourgon blindé, avait à nouveau ouvert le feu sur un policier de New York. L'attaque fut de courte durée. Un des policiers qui ripostait à son attaque le tua. Smith était le cinquième membre d'un groupe de terroristes connus sous le nom de La Famille à être tué en pleine rue. Sept autres membres étaient toujours recherchés, de même que la somme de près de 1 million de dollars qui n'avait pas encore été retrouvée. Suite à un tuyau de Sam Brown, un des membres en détention, les policiers ratissèrent un quartier du Bronx à la recherche du suspect Donald Wims. Selon l'agent spécial Ken Maxwell, Brown en savait peu à son sujet.
Brown nous a donné une description générale d'un quartier du Bronx où il avait rencontré un individu dont la description correspondait à celle de Wims. En procédant par élimination et après moult démarches, mon collègue et moi-même avons identifié le bâtiment où la rencontre avait vraisemblablement eu lieu.
Les détectives ratissèrent le quartier en espérant trouver quelqu'un qui connaissait Wims et pourrait leur indiquer où il vivait. La chance leur sourit. Un de ses voisins leur donna son numéro d'appartement. Il croyait d'ailleurs que Wims était alors chez lui. Les détectives demandèrent des renforts. Comme toutes les autres confrontations avec ces terroristes avaient dégénéré en attaque armée, ils s'attendaient au pire. Quelques instants plus tard, ils entrèrent dans l'immeuble munis d'un mandat et accompagnés par une unité SWAT. Ils ignoraient si Wims était seul et s'il était armé.
Au cours de cette attente, nous avons traversé des moments d'anxiété. Mais au bout du compte, il est sorti dans le couloir et il s'est rendu. Ensuite, nous avons trouvé chez lui plusieurs armes à feu, des masques à gaz, un gilet pare-balles et assez de munitions pour affronter une petite armée.
Wims était le seul membre de la famille dans l'appartement. Il fit face à des accusations fédérales et fut trouvé coupable de vol et de meurtre au second degré. On le condamna à 75 ans de prison. Même si six membres de la famille étaient maintenant en détention, le chef du groupe, Mutulu Shakur, était toujours en liberté. À nouveau, l'informateur Sam Brown donna une piste aux agents. Il croyait qu'il trouverait Shakur à Harlem, à la clinique d'acupuncture qu'il avait fondée. De concert avec la police de New York, le FBI établit un réseau de surveillance de la clinique 24 heures par jour.
Nous avons utilisé des agents et des détectives d'origine ethnique différente pour qu'ils se fondent dans le paysage. Par expérience, et aussi compte tenu du niveau d'intelligence et de la versatilité de ce gang, nous savions que nous devions être particulièrement discrets lors de l'opération de surveillance.
Les agents se tinrent à l'affût pendant plusieurs mois. Ils ne virent Shakur à aucun moment, mais remarquèrent que d'autres membres y venaient fréquemment. Ils espéraient que l'un d'eux finirait par les conduire à Shakur. Un soir, les agents suivirent un des hommes qui sortait de la clinique jusqu'au 85 Barrow à Greenwich Village. Ils apprirent alors que la maison était louée par Edward Joseph, l'un des suspects mentionnés par Sam Brown pour le vol et la fusillade de Nayak. C'était peut-être là que se cachait Shakur. Les agents ne s'étaient pas trompés. Les mois de travail assidu avaient porté fruit. Un juge fédéral leur donna l'autorisation de cacher des micros et de mettre la ligne téléphonique sous écoute. Mais Shakur et Joseph semblèrent se douter qu'ils étaient épiés par le FBI, car ils montaient le volume de la télévision dès qu'ils discutaient. Malgré tout, les agents purent recueillir des bouts de conversations incriminantes, notamment une discussion visant à tuer l'informateur Sam Brown. Après plusieurs semaines, les agents avaient recueilli assez d'indices pour obtenir le mandat d'effectuer un raid au repère de Greenwich Village. Dans la soirée du 25 mars 1982, soit 6 mois après le vol et les meurtres de Nayak, les agents se préparèrent à l'assaut. Ils passeraient à l'action tôt le lendemain matin en espérant arrêter les fugitifs pendant leur sommeil. En attendant, les agents surveillaient la maison quand ils virent Shakur y entrer. À l'aube, deux unités SWAT arrivèrent sur les lieux. L'une d'elles entra par la porte avant, pendant que l'autre couvrait la sortie de secours à l'arrière. On arrêta Chewy Ferguson et Edward Joseph, tous deux soupçonnés d'avoir participé au coup de Nayak. Mais leur chef, Mutulu Shakur, avait disparu. Il était discrètement sorti de l'immeuble au cours de la nuit, à l'insu des agents qui surveillaient les lieux. Ferguson et Joseph furent accusés d'avoir caché un fugitif, mais ils furent acquittés des accusations de meurtre qui pesaient contre eux suite à la fusillade de Nayak. Les deux hommes écopèrent de 12 ans d'emprisonnement chacun. Le 23 juillet 1982, près d'un an après le meurtre de deux policiers et d'un gardien de la Brinks, le nom de Mutulu Shakur fut mis sur la liste du FBI des 10 hommes les plus recherchés aux États-Unis. Retrouver le chef du gang responsable de 3 meurtres commis de sang-froid était devenu la priorité de tous les bureaux du FBI des États-Unis. Au cours de l'été 1982, un agent de New York se rendit en Géorgie pour y interroger un membre de la famille arrêté pour un autre vol de banque. Tyrone Ryson accepta de collaborer en échange d'une peine moins sévère de l'État de la Géorgie. Bien qu'il affirmât n'avoir pas été présent lors du vol du blindé à Nayak, il avoua avoir participé à l'élaboration du plan de ce vol qui avait coûté la vie à 2 policiers et un gardien de la Brinks. Ryson fournit des informations de première importance à propos des membres de la famille.
Non seulement Ryson était-il un membre de la famille, mais il était parmi les plus importants du gang. Il avait été impliqué dans tous les vols. Il connaissait tous les membres et leurs noms. Il savait également comment le gang opérait. Il a donc pu nous décrire son modus operandi, nous dire quelles armes il utilisait et qui faisait quoi.
Ryson raconta à l'agent comment les membres du groupe s'y prenaient pour avoir autant de faux noms. Selon lui, la gérante d'un magasin de vêtements pour enfants à Manhattan jouait un rôle clé dans l'obtention de fausses pièces d'identité. Elle notait les informations sur les permis de conduire de ses clients qui payaient par chèque. Au début des années 80, il n'y avait aucune photo d'identité sur les permis de conduire de l'État de New York. Il n'y avait qu'à se rendre au bureau d'immatriculation des véhicules en déclarant qu'on avait perdu son permis pour en obtenir immédiatement un duplicata. Ryson parla également à l'agent Maxwell des motifs du groupe.
Ils appelaient ces vols des expropriations. Pour eux, c'était presque des actes de guerre. Comme un des membres nous l'a déclaré avec éloquence, dans une guerre, il y a toujours des gens qui subissent des coups. À partir de là, on peut comprendre ce qui motivait les membres du gang.
Les informations fournies par Ryson aidèrent les agents à mieux s'expliquer le fonctionnement du groupe. Mais à l'automne 1984, soit 3 ans après le vol du fourgon blindé, 3 fugitifs étaient toujours recherchés par le FBI. Il s'agissait de Mutulu Shakur, le chef du gang, et de ses complices, Marilyn Buck et Susan Rosenberg.
Ah!
Près de 3 ans après le meurtre de 2 policiers et d'un gardien de la Brinks, des agents du FBI étaient toujours à la poursuite du suspect qui avait orchestré toute l'opération, Mutulu Shakur. Le 29 novembre 1984, le poste de police de Cherry Hill au New Jersey reçut un appel du gérant d'un service d'entreposage. Une de ses clientes avait réglé la note avec une carte de crédit volée.
Hello, this is Bob from Cherry Hill Storage.
Les policiers arrivèrent au moment où elle s'apprêtait à partir. À l'intérieur de sa mini-fourgonnette, ils aperçurent ce qui ressemblait à des contenants d'explosifs. Ils lui demandèrent de leur montrer une pièce d'identité. La femme allait prendre son sac à main sous son siège quand les policiers prudents l'en empêchèrent. Ils lui demandèrent de garder ses mains en l'air. Dans le sac, il y avait une arme à feu. Ils procédèrent à son arrestation. Ils vérifièrent son identité. Il s'agissait de Susan Rosenberg, un des membres de la famille, recherché depuis le vol du fourgon de la Brinks. Les enquêteurs obtinrent un mandat de perquisition de la mini-fourgonnette. Dans les contenants, ils trouvèrent près de 300 kilos d'explosifs et 14 armes. La mini-fourgonnette était immatriculée au nom d'une certaine Louise Harmon. Les agents découvrirent toutefois que le nom et l'adresse de cette femme étaient faux. Les techniciens examinaient la mini-fourgonnette de Rosenberg quand ils remarquèrent l'autocollant d'un atelier de mécanique au Connecticut. Les agents localisèrent l'atelier de New Haven où l'on avait fait l'entretien du véhicule. Il fallait espérer que le propriétaire se souviendrait de la personne qui était venue le porter. Les agents lui montrèrent plusieurs photos des sympathisantes connues de la famille. Il identifia Marilyn Jean Bock, l'une des 2 fugitives toujours recherchées depuis le vol du fourgon de la Brinks. Bock n'avait pas enregistré le véhicule sous son vrai nom, mais elle avait donné une adresse à Dobbs Ferry dans l'état de New York au moment où l'on avait fait la facture. Des agents remontèrent cette piste. Ils constatèrent que Bock se trouvait bel et bien à Dobbs Ferry et mirent sur pied une opération de surveillance. Pendant des mois, la suspecte leur échappa. Puis le 11 mai 1985, la police réussit enfin à la coincer près d'un restaurant et à l'arrêter. Bock nia formellement connaître Mutulu Shakur, ni avoir été impliqué dans le vol de la Brinks 4 ans plus tôt. Mais on ferait la preuve du contraire lors de son procès à la Cour fédérale. Elle fut condamnée à 50 ans d'emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle. Maintenant, il ne restait plus qu'un seul suspect à trouver. Le terroriste Mutulu Shakur. Les agents fouillèrent un appartement de Baltimore loué par Bock pour y trouver une piste sur l'endroit où se terrait Shakur. Ils y découvrirent des appareils pour fabriquer de fausses pièces d'identité. Des perruques. Des plans pour faire exploser des bureaux du gouvernement fédéral et 10 000 dollars en liquide. Les enquêteurs trouvèrent également des armes et des munitions partout dans l'appartement. Puis, sous une feuille de papier, ils tombèrent sur ce qu'ils espéraient trouver plus que tout, un indice sur l'endroit où Mutulu Shakur se trouvait. Il s'agissait en fait d'un numéro de téléphone à Los Angeles. L'agent spécial David Mitchell menait les recherches pour trouver Shakur. Il commença par contacter le bureau du FBI de Los Angeles et demanda à des agents de remonter la piste pour lui.
L'agent spécial Dana Ingalls du bureau de Los Angeles m'a fait savoir qu'il avait interrogé un individu et que ce dernier lui avait confirmé que Shakur vivait bien à Los Angeles. Mais nous étions confrontés à plusieurs problèmes. Shakur travaillait avec des individus très proches les uns des autres. Ils avaient établi tout un réseau d'aide. Les enquêteurs assignés à cette affaire avaient du mal à obtenir la collaboration d'informateurs.
Heureusement, après quelques semaines de travail, on parvint enfin à convaincre un informateur de révéler ce qu'il savait. Ce dernier déclara ignorer où Shakur se cachait, mais il donna le nom d'un de ses amis proches, un certain Chapman. Pendant environ 6 semaines, les agents surveillèrent Chapman et les autres relations de Shakur par voie terrestre et aérienne. Le dangereux suspect était cependant toujours introuvable. Pendant que les opérations de surveillance se poursuivaient, Mitchell et ses collègues tentaient d'identifier des constantes dans les allées et venues des relations de Shakur dans la ville. Puis le 11 février 1986, leur informateur les appela. Selon lui, Chapman devait rencontrer Shakur au cours de la soirée après avoir assisté à une partie de basketball. Les enquêteurs repérèrent sa voiture et attendirent qu'il sorte du stade. Par diverses tactiques, Chapman tenta de semer d'éventuels poursuivants. Il conduisait en tournant fréquemment aux intersections avant de reprendre sa route où il changeait de direction. Les policiers le suivaient toujours, même s'ils ignoraient si Chapman les avait repérés. Quand il atteignit finalement sa destination finale, l'équipe de Mitchell se gara à distance. Chapman rejoignit alors un homme qu'on croyait être Shakur. Des policiers en civil s'approchèrent des deux hommes en prenant soin de ne pas attirer leur attention. Mais dès que Shakur les aperçut, il se mit à courir. Les policiers le rattrapèrent dans une ruelle. L'arrestation de ce violent terroriste mit fin à 5 ans de recherche à l'échelle nationale.
Quand on a arrêté Shakur, les policiers impliqués se sont aperçus qu'il était très fatigué. Il était tard le soir. On l'a conduit au bureau du FBI de Los Angeles, où avec l'agent Engel, j'ai essayé de l'interroger. Shakur n'a rien voulu nous dire au cours de cet interrogatoire. Finalement, on l'a renvoyé à New York pour faire face aux accusations qui pesaient contre lui. And was subsequently removed back to New York City to face the charges.
Shakur a subi son procès au printemps 1986. Il faisait face à des accusations relatives au vol du fourgon de la Brinks et à la fusillade. Il a été condamné à 60 ans d'incarcération sans possibilité de libération conditionnelle. Les policiers qui ont survécu à ce jour terrifiant à Nyack, dans l'état de New York, ont été soulagés d'apprendre que Shakur avait été traduit en justice. Mais le chef de police, Alan Colsey de Nyack, n'oubliera jamais les collègues qu'il a perdus.
Eddie O'Grady et l'agent Chip Brown, comme nous l'avions surnommé, étaient des membres actifs de la communauté de Nyack. Ils avaient été à l'école ici. Ils avaient commencé à travailler pour la police avant moi. De fait, ce sont eux qui m'ont familiarisé avec les gens d'ici. Ils étaient très proches des citoyens. Ils étaient aussi très proches de beaucoup d'entre nous de la police. C'étaient des types bien et d'excellents policiers. Ils nous manqueront toujours.
Pour honorer le souvenir de ces hommes, on a érigé un monument à Nyack. Leurs collègues ont trouvé un certain réconfort en constatant que leur mort a permis des changements et ainsi rendu la vie des policiers et de la population plus sécuritaire.
Let it not be said that they died in vain, but rather that their ultimate sacrifice.
Ils ne sont pas morts en vain,
Leur sacrifice a permis l'identification d'un problème national. Je crois sincèrement que la mort tragique de ces personnes nous a permis de mettre à jour un réseau de terrorisme intérieur jusque-là inconnu. Il nous a aussi permis de sauver la vie de nombreuses autres personnes.
And in essence, prevented the loss of life to others.
En Californie, des détectives enquêtent sur un meurtre crapuleux. Le suspect réussit à s'enfuir, mais il sera capturé plus tard en Arizona. Il ne sera toutefois pas en détention très longtemps. Il s'évade et disparaît dans le Grand Canyon en volant et kidnappant les touristes sur son passage. Pour arrêter cet insaisissable meurtrier, les agents du FBI et les policiers devront unir leurs forces et se lancer à sa poursuite. À l'aube du 20 septembre 1990, un pêcheur lança sa ligne dans les eaux de la rivière Burns Cut près de Stockton, en Californie. Il sentit mordre à l'hameçon et tira quelque chose de lourd. C'était un grand sac de plastique. Contenait une jambe. Le pêcheur appela le bureau du shérif de San Joaquin County. Des policiers furent immédiatement dépêchés sur la scène. Ils constatèrent qu'il y avait bien des restes humains, mais sans aucun indice qui leur permettrait d'identifier la victime. Ils firent alors appel au sergent détective Armando Mayoya, qui fut chargé de l'enquête.
Les recherches dans la rivière pour trouver d'autres indices ou d'autres restes humains se sont poursuivies toute la journée et toute la nuit suivante jusqu'au lendemain matin. On a alors pu obtenir l'aide de la patrouille des cours d'eau pour fouiller la rivière pendant que nos détectives ratisseraient les berges.
L'aube se levait à peine que les unités étaient déjà à l'œuvre. Elles se rendirent en eau plus profonde pendant que les détectives examinaient les berges. On n'eut pas à attendre très longtemps avant de trouver un autre sac de plastique. Celui-ci contenait deux bras. Les poignets étaient retenus l'un à l'autre par du ruban adhésif. Tout près, un des agents de la patrouille des cours d'eau trouva un autre objet. C'était un torse humain enveloppé dans un drap. Plus tard, les agents trouvèrent dans différents sacs de plastique la jambe droite, puis la tête de la victime et enfin des vêtements. Après plusieurs heures de recherche, les enquêteurs avaient trouvé un corps d'homme en entier. Ils ignoraient de qui il s'agissait.
C'était un meurtre brutal. Il faut être cruel pour prendre le temps de démembrer ainsi un corps et le transporter dans plusieurs sacs pour s'en débarrasser. C'était un meurtre commis par un individu insensible et froid.
À la morgue, le coroner examina les restes. Il conclut que la victime avait été démembrée à l'aide d'un couteau à lame dentelée. Il faudrait compter plus de temps pour établir la cause de la mort de la victime et savoir si elle vivait au moment où on l'avait ainsi démembrée. Les détectives vidèrent les poches des vêtements et trouvèrent un porte-monnaie contenant un permis de conduire émis en Californie. Il appartenait à un certain Sam Lee McCullough, 40 ans, de Stockton. Les dossiers judiciaires indiquaient que ce dernier avait déjà été arrêté pour un délit mineur. La vérification des empreintes digitales de la victime permit de confirmer son identité. Après avoir informé la famille de McCullough de sa mort, les détectives obtinrent l'autorisation de fouiller sa maison.
L'identification de la victime nous a permis d'obtenir l'adresse de cet individu. Nous sommes allés chez lui. Il vivait au 5200 Est Mariposa Road à Stockton Sud.
Les policiers donnaient rendez-vous à la petite amie de Sam McCullough chez lui. Elle avait signalé sa disparition plus tôt le même jour. Comme Sam ne l'avait pas appelé depuis quelque temps, elle était venue chez lui et elle avait alors vu tout le fouillis dans la maison. De nombreux effets manquaient. Sa Jeep Cherokee blanche n'était pas là non plus. Il manquait également deux fusils, un revolver et un pistolet semi-automatique de 9 mm. Les détectives et les policiers examinèrent la maison de McCullough. Ils remarquèrent des traces de pas qu'ils analysèrent à l'aide d'un appareil électrostatique. Les traces semblaient avoir été laissées là par des bottes. Les enquêteurs recueillirent également des empreintes digitales, mais l'analyse révéla qu'elles provenaient toutes des habitués de la maison. Si le meurtre avait été commis dans ce lieu, le meurtrier avait éliminé tout indice évident.
Avec un homicide comme celui-ci, on pourrait s'attendre à trouver du sang partout, de nombreuses taches. La personne impliquée avait pris beaucoup de temps pour nettoyer et aussi cacher les indices.
Dans la salle de bain, un enquêteur fit une découverte importante.
Presque au moment de partir, on a éclairé en passant avec une torche électrique et on a aperçu un reflet tout près de la bonde.
On aurait dit l'éclat d'une paillette. Les enquêteurs savaient d'expérience qu'il s'agissait là d'une trace de collagène, une substance présente dans les os qui a des propriétés réfléchissantes exceptionnelles.
En regardant au fond du tuyau d'écoulement, on a trouvé du sang, des tissus humains, des fragments d'os et beaucoup de cheveux. Au point où en était l'enquête, il était probable qu'on eût démembré la victime dans la baignoire de cette résidence.
Par des analyses subséquentes, on put affirmer qu'il s'agissait bien du sang et des cheveux de Sam McCullough. Le médecin légiste détermina que McCullough était déjà mort lorsqu'on lui avait sectionné les membres. Il avait été abattu d'un projectile au front. La présence de poudre explosive indiquait qu'on l'avait tué à bout portant. Le médecin légiste préleva les fragments de projectiles et il les envoya au laboratoire balistique de l'État. Les experts évaluèrent la taille, le poids et la composition des fragments et purent affirmer que l'arme du crime était une carabine de calibre 22. On peut identifier le modèle de l'arme utilisée en comparant les fragments recueillis à des projectiles tirés avec des armes du même type. Les experts du département de la justice croyaient que l'arme qui avait tué McCullough était une carabine Western Field. Des détectives trouvèrent ensuite des documents contenant la liste des numéros de série des armes de McCullough ainsi que celui de sa Jeep. Ils ajoutèrent ces numéros à son dossier qu'ils transmirent au NCIC, le Centre national d'information criminelle. Quelques jours plus tard, un policier de Stockton trouva la Jeep abandonnée à plusieurs kilomètres de la maison de McCullough. Mais la fouille du véhicule ne fournit aucun indice sur le crime. Les enquêteurs ne disposaient d'aucune piste pour remonter jusqu'au meurtrier. Ils ratissèrent le quartier de McCullough dans l'espoir de trouver un témoin. Personne n'avait vu ni entendu quelque chose d'anormal. Une voisine se rappelait toutefois que la maison de McCullough avait été cambriolée 2 ans plus tôt. Un dossier au service de police confirma ces déclarations.
En effectuant une recherche sur les noms des personnes impliquées dans ce crime, nous avons trouvé un rapport selon lequel le suspect était un certain Stephen Horning. Au dire de McCullough, Stephen l'avait volé à la pointe de son arme.
C'était la première piste solide. Comme Stephen Horning n'était plus à sa dernière adresse connue, les policiers retracèrent son frère aîné qui était policier sur le campus d'un collège. Celui-ci déclara aux agents qu'il avait 5 frères en tout et que Stephen était particulièrement proche de l'un d'eux, Danny Ray Horning. Stephen et Danny étaient inséparables. Ils chassaient et pêchaient souvent dans la rivière Burns Cut, soit la rivière même où le corps de McCullough avait été abandonné. Le policier parla en particulier d'une expédition de chasse de ses deux frères.
Ils avaient abattu un cerf, l'avaient rapporté à la maison et débité dans la baignoire. C'était très significatif pour nous parce qu'on avait démembré la victime de la même façon.
L'aîné des frères Horning indiqua au détective un autre détail qui leur était déjà familier. Après avoir débité le cerf, Danny avait mis les membres de l'animal dans des sacs à ordures noires. Pour les enquêteurs, cette histoire ressemblait étrangement à l'homicide de Sam McCullough. Ils lui demandèrent ensuite d'identifier des vêtements trouvés dans un sac qui contenait aussi des membres humains. Celui-ci déclara que les shorts noirs et le t-shirt ressemblaient à ceux que son frère Danny portait souvent. Les enquêteurs apprirent également que personne de la famille Horning n'avait vu Stephen et Danny depuis le 19 septembre, jour du meurtre de Sam McCullough.
L'enquête avait tellement progressé qu'on avait assez de présomptions pour présenter le dossier à un juge. On a ainsi obtenu les mandats de recherche et d'arrêt de Stephen et Danny.
Le 20 novembre 1990, 2 mois après le meurtre, les policiers du bureau du shérif de San Joaquin se rendirent à la roulotte des deux frères située derrière la propriété de leurs parents. Comme il n'y avait personne, les détectives fouillèrent les environs. Derrière la roulotte, ils trouvèrent un indice important. La crosse et le canon tronçonné d'une carabine. Les experts en balistique avaient indiqué que l'arme utilisée pour tuer McCullough était vraisemblablement une carabine de calibre 22 Western Field.
Le tronçon du canon trouvé dans le champ près du lieu de résidence du suspect était celui d'une carabine 22 Western Field.
Le lendemain, les policiers retournèrent à la roulotte. Stephen Horning, un des deux frères, était là. Il fut arrêté et inculpé de meurtre. Quant à l'autre suspect, son frère Danny Ray Horning, il était introuvable. En décembre 1990, à la prison du comté de San Joaquin en Californie, un suspect était en garde à vue suite au meurtre de Sam McCullough et au démembrement de son corps. On avait arrêté Stephen Horning après une enquête d'un mois, mais les enquêteurs devaient trouver des preuves pour le garder plus longtemps en détention. Son frère, Danny Ray Horning, était recherché lui aussi, mais il avait disparu. Stephen jura qu'il n'était pas impliqué dans ce meurtre et déclara qu'il ignorait où se trouvait Danny. Comme Stephen ne semblait pas vouloir aider les policiers, ils s'adressèrent au père des deux frères. Monsieur Horning fournit de précieuses informations au sergent détective Armando Mayoya sur l'arme présumée du crime.
En parlant avec le père du suspect, j'ai appris qu'il avait vu Danny avec la carabine 22 au canon tronçonné.
Le père ajouta que Danny et Stephen étaient derrière la roulotte quand ils avaient abattu un chien avec l'arme à feu. Ensuite, Stephen avait tiré la bête avec une arbalète. Monsieur Horning croyait que ses fils avaient enterré le chien dans le champ derrière la roulotte. Les enquêteurs fouillèrent le terrain des Horning. Ils aperçurent bientôt un endroit où la terre avait été fraîchement retournée et se mirent à creuser.
On a trouvé le chien. Ensuite, un expert a recueilli le projectile dans le crâne de l'animal.
Le projectile fut examiné au laboratoire balistique de l'État. On en conclut que le chien avait été tué avec une carabine de calibre 22 Westernfield. On avait utilisé ce même modèle pour assassiner Sam McCullough. Les experts comparèrent ensuite la balle ayant tué le chien à celle qui avait tué McCullough. Leur conclusion, il était vraisemblable que les deux projectiles avaient été tirés avec la même arme à feu. Les détectives se rendirent à la prison du comté pour mettre Stephen Horning devant les faits. Ils lui parlèrent des preuves balistiques très convaincantes, laissant présumer que le projectile ayant abattu le chien était semblable à celui qui avait tué Sam McCullough et du fait qu'on avait vu Danny, son frère, avec la carabine Westernfield de calibre 22. Quand il comprit que les preuves contre lui et son frère étaient convaincantes, Stephen accepta de coopérer. Il déclara que Danny était avec lui lors du vol chez McCullough 2 ans plus tôt. Danny avait juré de tuer McCullough quand il avait appris qu'il avait porté plainte à la police. Puis il avait été incarcéré pour avoir maltraité un enfant. Quand il était sorti quelques mois plus tard, Danny avait parlé de son intention de refaire un vol chez McCullough. Comme on ne disposait d'aucune preuve matérielle de l'implication de Stephen dans le meurtre de Sam McCullough, les enquêteurs abandonnèrent les accusations contre lui. Il devait maintenant trouver son frère, mais Danny Ray Horning avait disparu. Pendant 6 mois, le sergent détective Armando Mayoya travailla sur l'enquête sans trouver de nouvelles pistes. Mais le 22 mars 1991, les autorités de Winslow, en Arizona, l'appelèrent à propos d'Horning.
J'ai reçu un appel du service de police de Winslow. On avait arrêté Horning suite à un vol de banque.
Ce jour-là, Horning était entré dans la Valley National Bank de Winslow, à plus de 1200 km à l'est de Stockton, en Californie. Il avait utilisé pour la première fois son pistolet de 9 mm pour forcer la caissière à remplir un sac avec $25,000. Pendant qu'elle était dans l'autre pièce, elle déclencha le système d'alarme silencieux avec son pied. Au service de police de Winslow, situé à seulement un pâté de maison, le détective Elmer Assey prit l'appel.
Dans ma voiture fantôme, je passais inaperçu. Je me suis garé à un endroit où je croyais pouvoir voir ce qui se passait dans la banque.
Mais il lui était impossible de voir quoi que ce soit. Le détective s'approcha donc pour vérifier de plus près. En regardant par la vitre, il vit un homme armé se diriger à reculons vers la porte avec un otage.
Il a franchi le seuil de la porte. Je lui ai braqué mon arme dans les côtes et je l'ai poussé contre le mur en lui prenant son sac d'argent des mains.
Le suspect avait un pistolet de 9 mm sur lui. Le détective ainsi découvrit alors qu'il s'appelait Danny Ray Horney. En vérifiant dans la base de données du NCIC, il constata qu'un mandat d'arrêt était levé contre lui. Ainsi décrivait à Mayoya l'arme à feu du suspect.
Il m'a dit qu'il avait un pistolet semi-automatique de 9 mm et il m'en a donné le numéro de série. C'était le numéro d'une des armes volées à la résidence de McCullough, la victime.
En Arizona, Horning fut jugé coupable de vol à main armée, d'enlèvement et de voies de fait. Au procès, il mit le juge au défi de lui imposer la peine la plus sévère pour ce délit, jurant qu'il s'évaderait de prison avant un an. Le juge releva le défi et condamna Horning à 4 peines d'incarcération à vie. Les autorités de Californie décidèrent de ne pas faire venir Horning tant qu'il n'aurait pas purgé toute sa peine à la prison d'État de l'Arizona à Florence. Le 12 mai 1992, les gardiens qui faisaient l'appel des prisonniers à 16h s'aperçurent que le prisonnier numéro 85-897 n'était pas dans sa cellule. On verrouilla l'établissement et on le fouilla minutieusement, mais on ne retrouva pas Danny Ray Horning. Ce criminel reconnu et présumé meurtrier était en cavale. Le 12 mai 1992, à l'extérieur de la prison d'État de l'Arizona à Florence, s'engagea une importante chasse à l'homme pour retrouver l'évadé Danny Ray Horning, condamné à 4 peines d'emprisonnement à vie. Horning était également soupçonné d'avoir tué et démembré une de ses victimes en Californie. L'enquêteur spécialisé dans les cas d'évasion Doc Schuster du service correctionnel de l'État de l'Arizona participa à l'organisation des recherches.
Notre service dispose de pisteurs, de chiens, de véhicules et d'équipements. Il s'agissait donc de le pister pour pouvoir ensuite l'arrêter. On voulait l'apercevoir, suivre sa piste à l'aide de nos chiens, de nos chevaux et de nos hommes pour enfin le retrouver.
Des équipes constituées de personnel policier local, de l'État ainsi que d'agences fédérales répondirent à l'appel. Mais Horning avait déjà quitté le secteur immédiat de la prison. Pendant que les équipes agrandissaient leur rayon de recherche, Schuster retourna à la prison pour tenter de comprendre comment le présumé meurtrier avait pu s'évader. Les dirigeants de la prison demandèrent alors au FBI de participer à l'enquête. On commença par examiner le dossier de Horning. Ce criminel avait été placé dans l'unité centrale de la prison, soit l'endroit le mieux gardé de l'établissement. Rien ne laissait croire qu'il s'était trouvé un passage ou qu'il avait pratiqué une ouverture dans un des murs du pavillon central. Les agents interrogèrent les gardiens de la prison ainsi que les prisonniers pour reconstituer les derniers faits et gestes d'Horning. Doc Schuster comprit alors pourquoi Horning n'était pas dans sa cellule.
Tous les détenus sortent de leur cellule dans la journée. Certains travaillent dans des ateliers, d'autres en cuisine. Ils sont un peu partout dans la prison. Il n'y en a qu'un certain nombre dans leur cellule. Quant aux autres, on note sur un formulaire où ils se trouvent. Ces 4 prisonniers sont à la cuisine et travaillent, par exemple. C'est pour ça qu'ils ne se trouvent pas en cellule lors de l'appel des prisonniers.
Les enquêteurs apprirent qu'Horning avait été assigné à du travail d'entretien. Il devait notamment faire le ménage de l'infirmerie. Cela lui donnait accès à des uniformes médicaux.
Il a trouvé une veste de laboratoire blanche à la clinique de la prison et des pantalons blancs à la cuisine.
Les enquêteurs croyaient qu'Orling avait enfilé les pantalons blancs, mis la veste de laboratoire et qu'il avait obtenu une fausse carte d'identité d'employé. Ainsi, il était simplement sorti de prison en toute impunité et avait pu se rendre dans la ville de Florence, à quelques kilomètres de là. Les enquêteurs examinèrent ensuite le dossier d'Orling pour tenter de savoir où il pourrait se rendre. Une de ses destinations possibles était la Californie, où vivaient sa famille et certaines de ses relations. L'autre destination était Winslow, en Arizona, où l'évadé avait juré de se venger des policiers et des agents du FBI qu'il avait envoyés en prison. L'agent spécial Keith Tallhurst, du bureau du FBI de Phoenix, se joignit alors à l'enquête. Il devait travailler en étroite relation avec le service correctionnel pour empêcher Orling de frapper à nouveau.
Selon les informations recueillies à la prison, on croyait qu'il allait faire d'autres vols de banque, puis se rendre à Winslow pour tuer les employés de la banque, où il avait tenté son vol, ou alors tuer les agents. On croyait qu'il se rendait dans cette direction.
Les agents examinèrent les effets personnels d'Orling dans sa cellule. On les envoya ensuite au psychologue de l'Académie du FBI à Quantico, en Virginie.
On a demandé aux experts du service des sciences comportementales s'ils pouvaient déterminer si cet individu pouvait mettre ses menaces à exécution. On nous a dit plus tard qu'il était en mesure de le faire, qu'il était même capable de le faire.
Si Orling pouvait tuer des agents du FBI, personne n'était à l'abri. On eut une première piste solide dans les recherches pour trouver Orling 3 jours après son évasion. Le 15 mai, des policiers du bureau du shérif de Pinal County furent dépêchés à un ranch à 25 km à l'ouest de la prison. Le propriétaire déclara que sa maison avait été cambriolée. Certains de ses vêtements, des jumelles, ainsi que des aliments avaient disparu. Il manquait également plusieurs armes chargées. Tout portait à croire que c'était là un coup de Orling qui préparait sa vengeance. Et l'on ne s'était pas trompé.
Les policiers ont trouvé l'empreinte digitale de Orling dans la maison. On est devenu encore plus inquiet à ce moment-là. Il allait bien dans la direction qu'on craignait et il semblait se préparer à mettre son plan à exécution.
Le fugitif était maintenant armé. Le FBI fit appel aux médias pour mettre le public en garde et solliciter son aide. Lors d'une conférence de presse, des agents montrèrent la photo d'Orling et transmirent des informations à propos du fugitif. Quiconque verrait Orling était invité à appeler le FBI immédiatement, en prenant bien garde de n'approcher le présumé meurtrier sous aucun prétexte. Le 11 juin, des policiers répondirent à un appel suite à un vol dans un chalet près de la ville de Pine, à mi-chemin entre la prison et Winslow. Cette fois-ci, Orling avait volé un camion. Selon l'agent spécial Keith Tallhurst, le suspect essayait de devenir une célébrité.
Il avait volé d'autres armes à cet endroit et il y avait laissé un mot disant « Merci pour ces effets » et signé Danny Ray. Il essayait ainsi de se faire connaître du public, j'imagine.
Lorsque cette histoire fit les manchettes, les enquêteurs craignaient que le public n'idéalise Orling et ne se rende pas compte à quel point il était dangereux. Après tout, cet homme n'avait pas hésité à démembrer une de ses présumées victimes en Californie. Maintenant, Orling avait un véhicule. Il était armé et il s'approchait du parc du Grand Canyon au moment où des dizaines de milliers de touristes commençaient leurs vacances. Pendant 10 jours, personne ne le vit. Avec son camion, Orling pouvait avoir déjà parcouru des centaines de kilomètres. Mais le 21 juin, un agent du service de la sécurité publique vit le véhicule volé à 80 km au nord de Pine. Danny Ray était au volant. L'agent demanda des renforts. Mais avant que ceci n'arrive, Orling descendit de sa camionnette et il s'enfuit à pied dans la forêt qu'il connaissait déjà très bien. Des agents du FBI répondirent immédiatement à l'appel. Dans la camionnette, ils trouvèrent un autre mot signé de la main d'Orling.
Pine en Arizona se trouve dans un secteur boisé au nord de l'État. Sur la route qui relie Florence à Winslow, Pine est presque aux abords de Winslow. Orling s'approchait donc de plus en plus de cet endroit et cela nous inquiétait beaucoup. Et rappelons-nous, il était armé, il avait un véhicule, et il se trouvait dans cet endroit. Nous avions peur qu'il ne mette ses menaces à exécution.
Les autorités de Winslow n'étaient pas les seuls en danger. Le FBI établit un poste de commandement dans le parc du Grand Canyon où Orling était une menace réelle pour les milliers de visiteurs. Les agents prirent note de toutes les informations fournies par le public et tentèrent de prévoir ce qu'ils feraient ensuite. Ils organisèrent de nouvelles recherches et relayèrent l'information aux divers services de police et agences impliquées. Le territoire de recherche était vaste et Orling se déplaçait rapidement. Le 23 juin, deux touristes déclarèrent qu'Orling les avait assaillis dans leur auto au parc national. Ils étaient garés dans le stationnement la veille lorsque Orling, à la pointe de son arme, les avait obligés à démarrer. Il leur avait ensuite ordonné de le conduire au bord du canyon. Il s'enregistra à une chambre d'hôtel et obligea ses otages à y demeurer. L'arme de leur ravisseur leur enleva l'envie d'appeler à l'aide. Ils craignaient que celui-ci ne leur tire dessus à tout moment. Orling enregistra alors un message destiné aux autorités. Il leur demandait de cesser les recherches pour le trouver. Il exigeait également la remise en liberté de l'un de ses frères en prison, ainsi qu'une rançon $1 million pour la libération d'une famille qu'il prévoyait prendre en otage à la place de ses présents otages qui n'avaient pas d'enfants. Le lendemain, Orling força le couple à le conduire à un magasin où il s'acheta de l'équipement de camping, des vêtements et de la nourriture. Mais avant qu'il n'ait eu le temps d'enlever une famille, un garde forestier le reconnut et le prit en filature en voiture. Orling tira sur le garde, le forçant ainsi à ralentir. Il ordonna alors à son otage d'accélérer. Quand l'écart entre les deux véhicules fut assez important, il lui ordonna de s'arrêter. Il descendit de l'auto et prit la fuite à pied. Le fait qu'il ait tiré sur un représentant de la loi montrait à quel point Orling était désespéré et de plus en plus dangereux.
On savait qu'il avait juré de ne pas se faire arrêter vivant. Il entendait en finir avec sa vendetta avec le FBI et les employés de la Valley National Bank. De plus, il avait déjà tiré sur un garde forestier. Nous étions donc très prudents quand on est entré dans les bois à sa poursuite. On ne pouvait pas courir après lui à la même cadence. Il prenait donc aisément de l'avance.
Le couple d'otages fournit aux agents la description des nouveaux vêtements d'Orning ainsi que des informations sur ses projets. « Une fois encore, des équipes de recherche armées ratissèrent l'endroit où l'on avait vu Horning pour la dernière fois, mais on ne trouva aucune trace de lui. Il était de nouveau à pied et il se cachait quelque part dans l'immense parc du Grand Canyon. Il avait juré de kidnapper une famille avec enfants. Pour l'arrêter, le FBI fit appel à son unité de sauvetage d'élite, le HRT. Les agents quadrillèrent tout le secteur, allant même jusqu'au fond du canyon, fouillant les grottes et menant des recherches par voie aérienne. Ils devaient trouver le présumé meurtrier avant qu'il ne tue quelqu'un d'autre. Des équipes de recherche du FBI, du service correctionnel de l'Arizona, ainsi que des services de police locaux étaient sur la piste du fugitif Danny Ray Horning dans le parc du Grand Canyon. On avait mobilisé des dizaines d'agents, des chiens renifleurs et des hélicoptères pour trouver Horning avant qu'il ne prenne d'autres otages. Mais le présumé meurtrier pouvait être n'importe où dans ce parc de plus de 48 000 hectares. Comme Horning représentait un réel danger pour les touristes, le FBI décida de fermer l'accès au parc pendant le week-end de la fête nationale du 4 juillet. Cela représentait une tâche colossale, car c'était le week-end de l'année où le parc recevait le plus de visiteurs. C'était également la première fois dans l'histoire de ce parc de 73 ans qu'on le fermait à cause d'une menace criminelle. Mais Horning était trop dangereux pour qu'on ne fasse pas l'impossible, comme nous le raconte l'agent spécial Keith Tollhurst.
Il se déplaçait un peu partout dans le parc et nous ne pouvions pas maîtriser la situation car il y avait beaucoup trop de visiteurs. Nous avons donc décidé d'évacuer tout le monde par des passages obligés et d'essayer de mettre la main sur lui.
On refusait l'accès aux nouveaux visiteurs et on demandait à ceux qui s'y trouvaient déjà de sortir du parc. La police dressa des barrages routiers aux divers points d'entrée et de sortie du Grand Canyon. On fouilla plusieurs véhicules et on informa les automobilistes de la présence d'Horning. Malheureusement, les agents ne furent pas assez rapides. Le 4 juillet, deux touristes anglaises se préparaient à quitter le parc lorsqu'un homme armé s'approcha d'elles. Elles savaient que c'était Danny Ray Horning, même s'il ne ressemblait plus guère aux photos publiées. Il était plus mince, avait les cheveux blonds et il était rasé. Comme il ne pouvait plus sortir librement du parc, ces deux femmes et leur auto devenaient sa seule issue de secours. À un barrage routier, un policier fit arrêter le véhicule et parla aux trois passagers. Horning avait menacé de tuer les deux femmes si elles le trahissaient. Les deux otages devaient rester calmes, même si Horning était assis derrière elles, avec une arme braquée dans leur dos. Le policier ne reconnut pas l'homme blond et il les laissa sortir. Une fois à l'extérieur du parc, il obligea les deux femmes à le conduire à Williams, à 100 km plus au sud. Quand ils furent assez loin de la police et du parc du Grand Canyon, Horning les obligea à s'arrêter. À la pointe de son arme, il les força ensuite à entrer dans les bois. Les deux femmes étaient convaincues qu'Horling allait les abattre. Mais à leur grand soulagement, il les laissa là, prenant la fuite à bord de leur voiture. Les deux femmes se libérèrent de leurs liens et se rendirent à une épicerie. La caissière appela alors les autorités. On lui dit qu'un policier se trouvait déjà dans les environs. Elles purent fournir à la police des informations sur Orning, sur son apparence et sur la voiture qu'il conduisait.
On a transmis la description du dernier véhicule qu'il avait volé à ses femmes. Un policier a alors aperçu la voiture se diriger vers Phoenix.
Le patrouilleur Stephen Costello travaille pour le service de sécurité publique de l'Arizona. Quand il aperçut Orning, il décida de le suivre. Bientôt, la poursuite prit une tournure tragique.
J'ai entendu un bruit sourd et j'ai pensé que ma voiture avait un problème mécanique. J'ai regardé les cadrans du tableau de bord, mais tout semblait bien fonctionner. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il m'avait tiré dessus. J'en ai avisé le répartiteur au poste. Je lui ai dit qu'il avait tiré sur moi, que j'étais sain et sauf et que j'allais continuer de le suivre.
Les coups de feu obligeaient le patrouilleur à garder une certaine distance avec le fugitif. Mais il savait qu'il ne devait le laisser s'échapper sous aucun prétexte. Orling tenta de semer son poursuivant en changeant de direction près de la ville de Sedona.
Il s'est engagé dans la sortie. Je l'ai vu freiner brusquement et se mettre à déraper. Il a alors frappé à un panneau signalisateur. Je lui ai alors crié « Arrêtez, ne bougez plus !»
Le coup de feu n'atteignit pas le fugitif. Le policier avait reçu l'ordre de ne pas suivre Orling dans les bois. Lorsque les renforts arrivèrent, les agents et les policiers ratissèrent méthodiquement le secteur. Mais une fois de plus, Orling fut introuvable. Après le coucher du soleil, le poste de commandement reçut un renseignement. Quelqu'un avait aperçu Orning boire de l'eau à même un tuyau d'arrosage dans le quartier de Sedona. Un agent de patrouille répondit à l'appel. Orling était vraisemblablement toujours armé. Cette fois, il n'y eut pas d'échange de coups de feu. Après une poursuite de 54 jours et après avoir parcouru des centaines de kilomètres, c'est un Orling épuisé qui se laissa arrêter.
Il n'y avait pas de doute dans mon esprit que la détermination de nos équipes à ne pas lâcher a littéralement jeté à terre Orling. Il gisait là, comme un chien épuisé. Cet homme qui avait toujours son arme avec lui, qui avait juré de ne jamais se faire prendre vivant, tout ce qu'il demandait maintenant, c'était un verre d'eau.
Danny Ray Orning écopa de 6 années d'incarcération de plus pour les délits commis pendant sa cavale. Les autorités de la Californie décidèrent alors de faire venir Orning et de le faire accuser du meurtre de Sam McCullough. Le procès s'ouvrit le 12 mai 1994. Les avocats du procureur prouvèrent qu'en septembre 1990, Danny Orling était entré par effraction dans la maison de Sam McCullough pour un vol. Orling en voulait à McCullough d'avoir porté plainte contre lui à la suite d'un autre vol dans le passé. Il ligota McCullough, l'empêchant ainsi de se défendre. Orning était alors armé de sa carabine Westernfield 22 au canon tronçonné, la carabine même avec laquelle on l'avait vu abattre un chien plus tôt. À bout portant, il abattit Sam McCullough. « Les quelques éclaboussures de sang et les tissus humains qu'on trouva dans le tuyau d'écoulement de la baignoire indiquaient que Horning avait démembré sa victime dans cette baignoire. Il s'était ensuite débarrassé de son corps dans la rivière Burnscut. Le 15 juillet 1994, environ 4 ans après la mort de Sam McLaw, un jury californien a trouvé Horning coupable de meurtre. Il a été condamné à la peine de mort. Danny Ray Horning a été envoyé à la prison de San Quentin. Il est présentement dans une cellule à sécurité maximum où il attend son exécution.